Session de théologie, le Dieu des philosophes et le Dieu des chrétiens, par le père Philippe Arimon, le 22 octobre 1993, première conférence. Première conférence.
On commence cette petite session sur le Dieu des philosophes et le Dieu des chrétiens. Oui, c'est très vaste. Hein. Alors, on essaiera de prendre la pointe. C'est ça qui est intéressant. C'est un sujet qui reste très actuel. Et je dirais qui reprend aujourd'hui une acuité très spéciale. C'est très curieux. D'une certaine manière, tout le monde, jusque dans le cinéma, on reparle de Dieu. On revient à Dieu. On ne sait pas très bien ce que c'est. Hein. Mais quand même, je pense au livre de Jean Guiton. Hein, qui montre que si on suit Jean Guiton, on dirait que toute la science retourne vers Dieu. Et quand on voit les savants en particulier, qu'on leur demande oui, oui, on ne sait pas très bien exactement. Il y a un positivisme qui reste. Et Dieu, c'est un peu le sentiment, un appel vers quelque chose de grand, un absolu vers lequel on tend. C'est un peu ça qu'on ressent. Alors, la parole de Pascal reste très vraie. Après le livre de Jean Guiton, on a envie de dire « Le Dieu des savants n'est pas le Dieu des chrétiens. » Il pose un Dieu comme une explication du monde. On se sert de Dieu pour expliquer le monde. C'est pas tout à fait comme ça la réalité. Dieu n'est pas celui qui explique le monde, qui conduit dans ce grand musée qui est le monde, puis dit voilà, tout s'explique grâce à moi. C'était la position de Descartes, on le verra. Dieu garant de la vérité. Grâce à Dieu, le monde est intelligible. Posons Dieu, puis alors on pourra avoir confiance dans le monde, puisque il y a quelqu'un derrière qui le porte. Si on voyait que le monde, on ne serait pas très très satisfait. Mais finalement, ce n'est pas Dieu. On pourrait prendre la position hégélienne aussi, parce que c'est à l'ordre du jour. Et dans la position hégélienne, au terme, c'est Hegel qui est Dieu. Tout ça de la foi. Si on pousse l'esprit humain jusqu'au bout, on s'identifie à Dieu. Mais c'est un peu comme les savants. Les savants, jusqu'au bout, ils aboutissent à Dieu. Et ça ne les gêne pas du tout. Ils n'adorent pas en découvrant Dieu. Pas du tout. Vous voyez, je suis intelligent. Ce que je fais est bien, puisque j'aboutis à Dieu. Dieu justifie leur position. C'est pour ça qu'au fond, j'allais dire, aujourd'hui, où l'on parle tant de Dieu, à tort et à travers, il est peut-être bon de se reposer la question. Qu'est-ce que l'homme peut dire sur Dieu par son intelligence, par son cœur? Qu'est-ce que la foi nous dit? Et refaire le Contra Gentiles de Thomas d'Aquin, pas le répéter, mais le refaire, qu'est-ce que l'intelligence humaine, avec tout son développement scientifique, artistique, philosophique, peut dire sur Dieu. Il peut vraiment aboutir à un Dieu personnel. Parce que c'est ça qui est intéressant. Si Dieu est l'explication du monde, j'en ai pas besoin. Le monde a son intelligibilité en lui-même. Et cet article, j'ai pas besoin de Dieu pour ça. Cet article de Thomas d'Aquin que j'aime beaucoup, de la nécessité de la foi. La foi est nécessaire pour quoi ? Pour expliquer le monde ? Non. Pour expliquer ce que c'est que l'homme ? Non plus. La foi, c'est me faire comprendre que l'homme est fait pour voir Dieu. Pour qu'un jour, il vive de la béatitude de Dieu. Est-ce que ceci est très présent chez beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui se disent croyants ? L'impression que la foi leur garantit une morale. Puis c'est tout. Une honnêteté, une justice. On ne tue pas parce qu'on est croyant. On ne va pas mettre fin à sa vie parce qu'on est croyant. Et on voit très peu cette exigence très particulière de la foi qui est pour voir Dieu. Si je suis croyant, c'est pour voir Dieu. Alors, il y a d'une part, vous voyez, cette sorte d'appel constant vers Dieu. Et d'autre part, il faut bien le reconnaître, ce que l'Église appelle un fidéisme, c'est-à-dire que l'intelligence humaine ne peut pas remonter jusqu'à Dieu. Vous avez très nettement eu les deux aspects. Un théologien, ou plus exactement, c'était celui qui traduisait tous les documents pontificaux en latin. C'était un religieux, une occupation particulière, celle-là, une occupation très monastique, bénédictin, traduire tous les documents du pape, surtout quand il écrit en polonais, c'est plus difficile. Parce que là, on fait d'abord traduction en italien, et de l'italien, on traduit en latin. Parce que c'est pas dit, pas commode de passer du polonais en latin. C'est ce qu'on m'a dit, je répète. Pas moi qui ai trouvé ça. Il paraît qu'à Rome, ça se fait comme ça. Alors, ce traducteur de tous les documents du pape en latin me disait qu'aujourd'hui, parmi les théologiens qui enseignent la théologie, dans les universités, dans les facultés catholiques, 95% étaient fidéistes. Il m'a dit ça il y a peut-être 10 ans. Je crois pas que ça a changé beaucoup. Étaient fidéistes. Alors, j'explique ce que c'est que d'être fidéiste. Que peut-être que vous ne savez pas exactement ce que c'est d'être fidéiste. Être fidéiste, c'est dire je ne peux atteindre Dieu que par la foi. Mais les philosophes, ils atteignent une idée, un idéal, un absolu. Ils disent que c'est Dieu. Le chrétien, il atteint une personne. Le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Vous voyez, c'est extraordinaire que Dieu, sur sa carte de visite, a besoin de dire qu'il est le Dieu pour se présenter. Je me présente. Je suis le Dieu d'Abraham. ça avance beaucoup à Dieu d'être le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, moi ça m'a toujours beaucoup frappé sur la carte de visite de Dieu de voir ça. Peut-être Abraham pourrait se vanter, je suis celui à qui tu as parlé. Alors là je comprends très bien. Bonne référence. Isaac peut dire la même chose. Je suis celui, Dieu, j'ai un père, Abraham. Mais ce qui est mieux, c'est que j'ai un grand-père. Dieu, qui était le père d'Abraham, c'est mon grand-père. Et c'est Dieu qui met ça sur sa carte de visite. Le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Abraham. Je trouve ça admirable que Dieu se mette en référence avec des hommes. Des hommes qui sont sans doute très bien, je n'en doute pas. Ils sont quand même pas les génies de la terre. Qu'est-ce qu'a inventé Abraham ? Pour voir la manière dont Hegel parle d'Abraham. La manière dont il parle d'Isaac et de Jacob. C'est pas ce qu'il y a de plus génial dans le monde. Si les Grecs, si Dieu avait mis la référence avec « Je suis le Dieu d'Aristote », je suis le dieu de Platon. Je suis le dieu de Parménide. Ça aurait beaucoup plus de gueule. Tandis que là, Abraham, Isaac, Jacob. C'est extraordinaire, ça. Je suis le dieu des pauvres. L'Esprit Saint, le père des pauvres. Le père des prisonniers. Le père des mourants. Le père qui se révèle quand on touche quelque chose de tout à fait ultime dans le désarroi. Et c'est vrai, quand vous regardez l'écriture, le petit Ismaël, chassé à cause de la jalousie de sa belle-mère. Sarah était sa belle-mère. Sa vraie mère, c'était la servante. Et Sarah était l'épouse de son père, donc sa belle-mère, hein, je crois que c'est ce qu'on doit dire. Sarah, la belle-mère d'Ismaël. Les belles-mères sont toujours jalouses à l'égard de leurs vrais enfants. Et quand Sarah voit que Ismaël joue avec Isaac, comme Isaac est plus petit, plus jeune, Ismaël à tous les prix. Il domine. Alors, elle a pensé à l'héritage. Si Abraham meurt, il peut mourir, il est quand même âgé. Et si je meurs, il n'y aura personne pour défendre le petit Isaac. Et c'est Ismaël qui prendra tout. Alors, il faut à tout prix renvoyer promener Ismaël. Et c'est ce qu'elle fait. Par jalousie de mère à l'égard d'Isaac. Et Dieu, c'est un passage très mystérieux, Dieu semble donner raison à Sarah. Vous savez bien, Sarah veut cela, Dieu le veut. Ce que femme veut, Dieu veut. C'est à partir de ce moment-là, Sarah a cette dignité-là particulière. C'est quand même très extraordinaire, ça. Et c'est au moment où le petit Ismaël crie tellement fort que sa mère s'éloigne. Ça lui fait trop de mal. C'est à ce moment-là que Dieu se révèle. Il se révèle toujours aux pauvres. À ceux qui n'ont plus rien, plus rien, plus rien. Et Dieu se révèle là comme celui qui entend le cri d'Ismaël. Et le cri d'Ismaël, il l'entend alors que sa mère ne peut plus l'entendre. Il y a une limite à la miséricorde de la mère. Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu. Et quand la miséricorde de la mère est épuisée, la miséricorde de Dieu apparaît. Et c'est ça notre espérance. Quand le monde va très mal, Dieu va se révéler. Et un jour, quand le monde ira tellement mal qu'il n'y aura plus moyen de le relever, c'est le Christ qui reviendra dans sa gloire. C'est comme ça que ça va se passer, vous savez. Parce que toute l'écriture nous montre ça. Il y aura un cri tel de l'humanité, un tel cri vers Dieu, que Dieu reviendra dans sa gloire. Pour éclairer l'homme, pour montrer où est le vrai salut. On est presque à ce niveau-là maintenant. Le déclin de toute la culture chrétienne, de toute la grande civilisation chrétienne, de toute la grande culture chrétienne, elle dégringole très vite. Elle a monté lentement, très lentement. Elle est restée longtemps sur un haut plateau, avec des petits creux. Mais le déclin, c'est pas le déclin des dieux, c'est le déclin de la culture chrétienne. Et il y a très vite. Et ça se manifeste dans l'art, ça se manifeste dans la morale, ça se manifeste dans la culture. Et ce sont les idéologies athées qui prennent le dessus. De l'Europe est sortie cette grande forme d'idéologie athée depuis 150 ans. Un phénomène tout à fait nouveau dans l'humanité. Il n'y a jamais eu ça dans l'humanité. Que les philosophes ont été ceux qui ont parlé de la mort de Dieu. Du sépulcre. La mort de Dieu. Et cette mort de Dieu, dans ses idéologie athée engendre une culture d'une laïcisation qui se veut totale. Dieu, on n'en parle plus. Il y a encore des organes témoins de Dieu, mais c'est déclin. Il n'y a plus de vocation. Chez les religieuses, chez les religieux, chez les prêtres. Il y a une diminution de rabbins. Ils ont été obligés d'avouer. Avant, ça allait de père en fils. Non, maintenant non. Partout, il y a un déclin. Et ça dégringole. Et à partir de là, il y a un nouveau printemps qu'on ne peut pas nier. Un nouveau printemps dans les foyers chrétiens. Un nouveau printemps par rapport aux laïcs chrétiens dans le monde. Et puis un nouveau printemps aussi chez les religieux, chez les religieux. Et chez les prêtres diocésains, ça commence plus lentement. C'est très curieux de voir ça. Donc le problème de Dieu redevient le problème central. Je comprends très bien. L'homme sans Dieu, l'homme qui reconnaît Dieu. Et l'homme qui reconnaît Dieu de diverses manières. Et c'est ça qu'on va essayer de traiter ensemble. Oui, le renouveau. Le Saint-Père qui demande un renouveau. Or, le renouveau ne peut exister que dans la mesure où on essaie de redécouvrir la dimension religieuse. Alors, comment comprendre cette dimension religieuse? Comment la comprendre? Avant de commencer ça, je vais simplement vous rappeler, puisque c'est Pascal, cette fameuse parole. Il faut quand même citer Pascal au point de départ. L'an de grâce, 1654, lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr, et autres au martyrologe. Veille de Saint Chrysogone, martyr et autres, depuis environ 10h30 du soir jusqu'environ minuit et demi. Feu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. Deum meum et Deum vestrum. Ton Dieu sera mon Dieu. Oublie du monde et de tout hors Dieu. Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Grandeur de l'âme humaine, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu. Joie, joie, pleure de joie, je m'en suis séparé. Derin querunt, me fontem aqui vive. Mon Dieu, me quitterez-vous, que je n'en sois pas séparé éternellement. Cette est la vie éternelle qu'il te connaît. Seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 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 Je m'en suis séparé. Je l'ai fui. Renoncé. Crucifié. Je m'en suis jamais séparé. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Renonciation totale et douce. Soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur, éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre, non obliscar, sermones tuos. Amen. Pascal, sa conversion. Le Dieu des philosophes, des savants, non. Dieu de Jésus-Christ, le seul vrai. Je vous lis quelques passages, Pascal, parce qu'il faut le saluer, puisque c'est quand même cela. Alors, c'est son traité sur la vraie religion qu'il faudrait lire en entier. Et lire après la philosophie de la religion de Hegel. Ce qui est l'ultime moment. Il serait très intéressant de mettre en parallèle. Il y a quelque chose de commun. C'est pour ça que c'est intéressant. Je ne le ferai pas parce que je crois que au bout de 5 minutes, vous dormiriez. Pas Pascal, hein. Pascal on ne dort jamais. Pascal, il nous touche toujours. Hegel, sauf si on est très très calé au plan philosophique. Très très calé. Ceux qui traduisent Hegel de l'allemand au français savent combien c'est difficile. Tellement Hegel pense à lui en pensant à Dieu. Je me souviens, je ne dirai pas c'est qui. J'ai pensé à Hegel à ce moment-là. On m'avait demandé, c'était peu de temps après que j'étais revenu en France avec 80 brebis de Fribourg. J'avais quitté la chaire de philosophie, limite d'âge, parce que j'ai un privilège. c'est le plus vieux philosophe de France qui enseigne. C'est quand même un privilège, ça. Si on était dans l'Inde, je serais sur une. J'apparaîtrais avec une barbe blanche, une perruque blanche, exprès, c'est pas pour donner un peu de dignité avec un foulard de grand prêtre, pour exprès, pour montrer qu'on est quand même, on a une dignité, la dignité de l'ancêtre. Chez les aigles, la dignité de l'ancêtre, ça compte. Pas chez les moineaux, mais chez les aigles, ça compte. Et alors, j'étais entré avec 80. Quitté Fribourg, on me dit, mais pourquoi vous partez ? Évidemment, quand on est 120 étudiants inscrits pour la faculté de philosophie, qu'il y en a 80 qui partent, ça fait un trou. Il était reçu par un bon abbé, qui est un ami. Il dit, plus difficile d'écraser une brebis que d'en écraser 80. Alors j'ai compris. Et là, on m'avait demandé de présenter. C'était le père abbé de Lérins, parce qu'il m'avait donné un ordre. Vraiment un ordre. Présenter un peu ce que vous enseignez. J'avais dit d'abord, mais qu'ils viennent. Ils verront bien mieux ce que j'enseigne. Et ce que c'est qu'un cours de philosophie. C'est vrai, un cours de philosophie, c'est quand même quelque chose. Normalement, selon le dire d'Aristote, c'est là où l'enseignement est le plus enseignement. Cet homme dirait Maxime Thalée. On touche le sommet. Parce que l'enseignement théologique est moins enseignement que l'enseignement philosophique. Puisque j'ai l'habitude d'enseigner les deux, je le sais. Parce que quand j'enseigne en théologie, je suis soumis à l'autorité de l'Église. Et la théologie est une science subalternée à la science des saints. Parce que c'est une science subalternée, c'est une science, comprenez bien, c'est une science qui, au point de vue scientifique, n'est pas adulte. Elle est subalternée. Je crois que c'est très important de se rappeler ça, parce que les théologiens d'aujourd'hui, du moins beaucoup de théologiens d'aujourd'hui, voudraient que la théologie soit une science parfaite, comme les autres sciences. Or, elle est une science subalternée à la science des saints. Et c'est pour ça que quand j'enseigne la théologie, il me faut... j'allais dire, non seulement une permission, mais un ordre de Rome. On est accepté par Rome. Rome peut casser. Et ça pose des petits problèmes. Dans les universités qui sont national et qui accepte le point de vue de la théologie, le point de vue de l'État peut reconnaître tel professeur comme ayant une grande influence et donc très important, et Rome peut le casser comme théologien. C'est ce qui a eu lieu pour certains à Tübingen. Comme j'étais en Suisse à ce moment-là, j'étais en relation plus directe avec tout cela, parce que c'était un peu le cas de Fribourg. À Fribourg, université nationale, par le fait même fédérale, reconnue comme université nationale, et cependant dépendant de Rome dans la faculté de théologie. Et donc Rome pouvait supprimer le mandat à tel tel professeur de théologie, et l'État pouvait le maintenir comme professeur, puisque c'est l'État qui le payait. Alors c'est toujours celui qui paie qui a le dernier mot, hein. On le sait. C'est très curieux comme situation. C'est des situations qui peuvent se représenter. C'est des choses très curieuses. Alors, à Tübingen, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a fait passer de la faculté de théologie à la faculté de philosophie. Parce que l'avantage de la philosophie, c'est que la philosophie, elle est libre. Elle ne dépend pas directement de Rome. Elle est libre. Et elle doit garder sa liberté comme philosophie, puisque c'est l'intelligence humaine qui se développe pour elle-même. Et vous savez ce que dit Thomas d'Aquin, et dans l'Église c'est reconnu. En philosophie, la dernière des raisons, c'est l'autorité. En philosophie, la dernière des raisons, c'est quand Rome parle, l'autorité. Curieux ça, hein. C'est très intéressant du reste quand on essaie de comprendre un tout petit peu ce que représentait enseigner la théologie et enseigner la philosophie. Donc l'enseignement philosophique, au point de vue enseignement, c'est ce qui est le plus parfait. Former des intelligences, c'est ce qui est le plus parfait. Et au point de vue, j'allais dire, personnel, la recherche de la vérité, et la recherche de la vérité avec toute la liberté que donne normalement une université, c'est ce qu'il y a de plus grand. Former des intelligences. Et on est toujours très 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 dépendant du public dans lequel on est. Il faut comprendre que enseigner, celui qui enseigne et celui qui est enseigné doit faire œuvre commune. Et quand ils font œuvre commune, ils font quelque chose de très grand. Le plus grand travail qui existe au monde. La recherche de la vérité. C'est ce qu'il y a de plus grand. Cette coopération entre professeur de philosophie, maître en philosophie et étudiant en philosophie, c'est ce qu'il y a de plus grand. La théologie a quelque chose de plus digne, de plus noble et de plus grand. Par la foi et dans la foi. Mais pas comme qualité humaine. Vous voyez ce que je veux dire? L'enseignement philosophique est ce qu'il y a de plus élevé. L'enseignement de la théologie a une finalité beaucoup plus grande, puisque on coopère avec le Christ pour le salut des intelligences humaines et pour le salut des cœurs. Donc c'est plus grand, c'est une finalité plus noble. Mais la manière dont on doit enseigner est soumise à l'autorité. On est sur une tutelle. Et c'est ce que beaucoup de professeurs de théologie aujourd'hui n'acceptent plus. N'acceptent plus. Quand il y a certains cas particuliers, ils n'acceptent plus. Je me souviens d'une séance de faculté à Fribourg. Pourtant, Fribourg a une tradition soumission aux impères et aux évêques. C'est très curieux. Et presque tous les professeurs de théologie disaient « On devrait être jugé par nos pères, c'est-à-dire par les autres professeurs de théologie, et non pas par l'évêque, et non pas par le Saint-Père, et non pas par Rome. » Alors, c'est très intéressant de voir ce phénomène dans le monde ecclésial. C'est intéressant. Et c'est douloureux. Hein. C'est même très douloureux pour le croyant, pour le catholique. Parce que ça montre que la foi ne pénètre plus pleinement et totalement l'intelligence humaine. Saint Thomas dit que dans tout acte de foi, il y a l'adhésion, il y a la cogitatio. Parce que l'acte de foi, au sens strict, la vertu de foi, donc l'acte de foi, la vertu de foi, au sens strict, n'est pas une vertu intellectuelle. Elle est divine, vertu théologale. Mais elle ne qualifie pas totalement l'intelligence humaine, puisqu'elle ne donne pas l'évidence. Alors on comprend très bien que si on ne fait pas grande attention, au bout d'un certain temps, l'aspect cogitatio l'emporte sur l'adhésion. Et c'est là où la foi est en état de crise. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui que la foi est en état de crise chez les professeurs de théologie, dans les universités où l'on enseigne la théologie. La foi est en état de crise. Le cogitare, la cogitatio, qui est à l'intérieur de la foi, l'emporte. C'est très vieux, ça. Hein, au XVIe siècle et XVIIe siècle, les théologiens avaient inventé le protervus dans leur raisonnement. Le protervus dit ceci. Le protervus, celui qui accuse, celui qui dit non, qui s'oppose, qui met toutes les objections. Alors, le théologien avait pris un masque. C'était lui, hein. Mais il mettait un masque pour rester bien sage. Et puis, il disait tout haut, toutes les objections. Il répondait comme il pouvait. Mais souvent, les objections demeuraient des objections. Donc, au sein de la foi, on avait introduit les objections. On verra cela avec l'encyclique du pape, la dernière, Splendor Veritatis. On verra combien de professeurs de théologie morale diront au pape merci. Et combien de professeurs de théologie morale diront non, non, c'est impossible. C'est la vérité de Jean-Paul II. Ce n'est pas la vérité tout court de l'Évangile. Comment se faire cette vision? Oui. Alors, ça, c'est très significatif. Et c'est tout le problème qu'on traite. Y a-t-il deux vérités? Une vérité de foi, une vérité philosophique, une vérité humaine, une vérité de foi. On retrouve ça, alors, avec une acuité très grande aujourd'hui. Et le problème que nous traitons est au sommet de tout ça. La morale chrétienne dépend de la révélation, dépend de Dieu. Alors, y a-t-il une morale humaine qui s'oppose à la morale chrétienne? Y a-t-il deux morales? Ou y a-t-il tout simplement des états successifs de la morale? Morale humaine, morale religieuse, morale chrétienne. Mais il n'y a pas d'opposition. Il y a des attentes. La morale humaine est en attente de la morale chrétienne. La morale religieuse est en attente de la morale chrétienne. Et la morale chrétienne est la seule qui est parfaite. Tandis que ceux qui s'opposent disent « Ah non, il y a une tension dialectique entre la morale humaine d'aujourd'hui et la morale chrétienne telle que le peuple la présente. Oui. Ça qu'on vit, si on est un tout petit peu conscient, on vit quelque chose qui va très loin. Il a fallu, de la part du pape, une audace qui lui vient d'Esprit Saint. Une audace très grande pour donner cette encyclique. Vu le contexte qu'il connaît. Alors, c'est intéressant, vous voyez, de regarder quelqu'un comme Pascal. Quel était le dieu des philosophes du temps de Pascal? C'était le dieu de Descartes. Or, le dieu de Descartes n'est pas le vrai dieu. Pascal, qui n'est pas un philosophe, il aurait pu, en tant que philosophe, enfoncer un peu un glaive, montrer les erreurs de Descartes. Il le fait en tant que savant et en tant que chrétien. Et il montre que le savant doit se soumettre aux chrétiens. Alors, dans son traité sur la religion, je vais m'arrêter parce que je ne sais pas quel... Il y a un cours à quelle heure après ?
5 minutes.
Dans combien ?
10 minutes.
Dans 10 minutes. Bon. Alors, je m'arrête tout de suite, hein, parce qu'autrement, les 10 minutes passeront. Marqué qu'on pourra toujours les rattraper, puisqu'on est, on est chez nous. Hein.
Thank you.
session de théologie, le Dieu des philosophes et le Dieu des chrétiens par le Père Philippe Arimond, le 22 octobre 1993, deuxième conférence.
Je vous lis ce passage. Donc, dans la vraie religion, Pascal. Sans ces divines connaissances qu'ont pu faire les hommes, donc la révélation, hein, sinon, où s'élever dans le sentiment intérieur qu'il leur reste de leur grandeur passée, où s'abattre dans la vue de leur faiblesse présente, car ne voyant pas la vérité entière, ils n'ont pu arriver à une parfaite vertu. Les uns considérant la nature comme incorrompue, les autres comme irréparable, ils n'ont pu fuir ou l'orgueil ou la paresse, qui sont les deux sources de tous les vices. Puisqu'ils ne peuvent sinon ou s'y abandonner par lâcheté ou en sortir par l'orgueil. Car s'ils connaissaient l'excellence de l'homme, ils en ignoraient la corruption, de sorte qu'ils évitaient bien la paresse, mais ils se perdaient dans la superbe. Et s'ils reconnaissaient l'infirmité de la nature, ils en ignoraient la dignité, de sorte qu'ils pouvaient bien éviter la vanité. Mais c'était en se précipitant dans le désespoir. De là viennent les diverses sectes, des stoïques et des épicuriens, des dogmastiques et des académiciens, etc. La seule religion chrétienne a pu guérir ces deux vices, non pas en chassant l'un par l'autre par la sagesse de la terre, mais en chassant l'un et l'autre par la simplicité de l'Évangile, car elle apprend au juste qu'elle élève jusqu'à la participation de la divinité même, qu'en ce sublime état il porte encore la source de toute la corruption qui les rend durant toute la vie sujets à l'erreur, à la misère, à la mort, au péché. Et elle crie aux plus impies qu'ils sont capables de la grâce et de leur rédemption, de leur rédempteur. Ainsi, donnant à trembler à ceux qu'elle justifie et consolant ceux qu'elle condamne, elle tempère avec tant de justesse la crainte avec l'espérance. Par cette double capacité qui est commune à tous, et de la grâce et du péché, qu'elle abaisse infiniment plus que la seule raison ne peut faire, mais sans désespérer, et qu'elle élève infiniment plus que l'orgueil de la nature, mais sans enfler, faisant bien voir par là qu'étant seul exemple d'erreur et de vice, il n'appartient qu'à elle et d'instruire et de corriger les hommes. Vous voyez, Pascal considère, étant donné ce qu'il voit, que où on tombe dans l'orgueil, il n'y a pas besoin du sauveur. Où on tombe dans la détresse en voyant que c'est l'infirmité. Et donc que seule la vraie religion, celle du Christ, peut nous conduire au seul véritable Dieu. C'est ça qu'on appelle le fidéisme. Et le fidéisme, c'est que on dise que l'intelligence humaine, incapable par elle-même d'atteindre l'essence de Dieu. Or, Vatican I a affirmé en face du modernisme, en face de certaines attitudes des protestants, affirmé que l'intelligence humaine pouvait par elle-même découvrir l'existence de Dieu. Si le concile a affirmé cela, c'est que, de fait, à Fribourg, je devais enseigner le problème de la philosophie face au mystère de Dieu, c'est-à-dire la crête. Ce qui m'avait beaucoup intéressé quand j'étais jeune étudiant en philosophie, c'était le livre du père Maréchal, au commencement, au point de départ de la métaphysique. Un livre intéressant de voir quels sont les divers points de départ de la philosophie, et spécialement de la philosophie première, de la métaphysique. Mais ce qui m'a semblé beaucoup plus intéressant, parce que c'est beaucoup plus précis, le point de départ des philosophes n'est pas toujours très précis. Quand vous regardez le point de départ de la philosophie de Platon, au début c'est très précis, puis plus Platon avance, moins c'est précis. C'est très curieux. Au début, c'est la réminiscence. Puis, il voit que ce n'est pas vrai pour tout. Alors, il faut qu'intervienne Diotime, la femme prêtresse. Il faut qu'intervienne Parménide pour la dialectique. Il faut que progressivement, il voit que l'expérience agit pour montrer que l'aspect politique existe. Et ainsi de suite. Donc l'éducation. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de regarder le terme de toutes les philosophies, le sommet où les philosophies, où les philosophes aboutissent, où leur enquête s'arrête. Et pratiquement, comme c'était la partie que je devais enseigner, je peux dire que c'est ça qui m'a intéressé le plus. Et j'ai fait l'enquête, ce que j'appelle des topics historiques, depuis le point de départ de la Grèce, les pères de l'Église et tous les philosophes de Descartes à nos jours. C'est extrêmement intéressant de faire ça, parce qu'on voit que le phénomène de l'idéologie athée est un phénomène très particulier et propre à notre époque. Avant, aucun philosophe, ou très peu, affirme que l'intelligence humaine ne peut pas atteindre le sommet. Ça, il y en a toujours. Mais très peu, à part quelques sophistes grecs, ni l'existence d'un être premier. J'allais dire que nier l'existence de l'être premier, c'est supprimer la philosophie et c'est l'exaltation d'une anthropologie. C'est l'exaltation de l'homme par une idéologie. L'idéologie n'est parfaitement elle-même que si on nie l'existence. Et ceci, ça me semble très important à bien comprendre. Alors, je voudrais le tracer très rapidement avec vous, parce que c'est important de comprendre cela, de le toucher, que tous les philosophes, avant la révélation, tous les théologiens, les pères de l'Église, et les théologiens, tous, ont reconnu la dignité de l'intelligence humaine. Et que l'intelligence humaine pouvait atteindre l'existence de Dieu. Et que c'est quelque chose de très nouveau ceux qui ont affirmé des idéologies qui niaient Dieu, qui niaient l'existence d'un être premier, qui se repliaient uniquement sur l'homme. Alors, ça dure 150 ans. C'est depuis 150 ans, pratiquement. Et alors, en tant que chrétien, en tant que théologien, je me suis posé la question. 5 Jean dit dans sa première épître que les antichrists, ils sont sortis de chez nous. Ça m'a toujours beaucoup frappé, ça. Toutes ces idéologies athées sont sorties de chez nous. Puisque de fait, elles sont sorties du christianisme et d'une culture chrétienne. L'idéologie est sortie de l'idée d'une idée est sortie d'une culture chrétienne. C'est intéressant. Évidemment, on peut dire que Platon, c'est déjà une idéologie, mais pas tout à fait. L'idéologie deviendra parfaitement idéologie, et vous voyez ce que ça veut dire, idéologie, c'est-à-dire que c'est l'idée innée qui est en nous, qui est le point de départ de la philosophie. Donc l'homme devient source de la philosophie et de la recherche de la vérité. Et c'est les idées qu'il a en lui qui demandent de se développer selon un rythme dialectique, de se développer pour aboutir à quoi ? À montrer que c'est l'homme qui est le centre de tout. C'est pas étonnant, puisqu'on est parti de l'homme. On retrouve l'homme au terme. Et on reste dans l'homme. Si l'idée point de départ des idéologies, mais le cœur de l'idéologie, et qu'on ne fait qu'analyser ces idées, on ne trouvera jamais Dieu. Dieu n'est pas dans une idée, et Dieu ne peut pas être dans une idée, c'est impossible. Là, Sartre a raison de dire que ceux qui prétendent avoir une idée de Dieu, ce n'est pas Dieu qu'ils atteignent. Dieu ne peut pas être dans une idée. On ne peut qu'affirmer l'existence de Dieu comme celle d'un être absolu. Les idéologies qui commencent vraiment avec Descartes, qui atteignent leur plénitude avec Hegel, parce qu'il y a une continuité de Descartes à Hegel, au terme, on identifie l'homme à Dieu. Ce que Descartes ne pouvait pas faire parce qu'il était croyant, de foi catholique. Mais Hegel, de foi protestante, le fait. Au terme, il n'y a plus la foi, il n'y a plus que sa dialectique. Il n'y a plus que lui pensant. Et de Hegel est née toutes ces idéologies athées. Et je crois que c'est ce qu'on a dit couramment, il y a un hégélianisme de droite et un hégélianisme de gauche. C'est de l'idée liée à la dialectique qu'on voit l'exaltation de l'homme et de la brousse chez Hegel. L'homme prend tout. L'homme est tout. L'homme est Dieu. Donc c'est pas la négation de Dieu. Bien que si on regarde le contenu de l'affirmation, c'est la plus grande négation de Dieu. Si vous dites que l'homme est Dieu, je crois qu'on est Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être l'homme. Parce que si Dieu est l'homme, je suis Dieu, tu es Dieu. Lequel va l'emporter? Parce que Dieu, il est infini, il est unique. Donc il n'y a qu'une seule chose, c'est que j'aille plus vite que toi. Alors à ce moment-là, je te dévore. Ramener Dieu à l'homme, c'est supprimer Dieu. Et c'est peut-être la manière la plus élégante d'être athée. Et c'est pour ça qu'immédiatement après Hegel, avec un tout petit peu de critique, on dit mais non. Une dialectique partant des idées ne peut que nier Dieu et montrer ce qu'est l'homme et que l'homme seul existe. Alors vous voyez, je me suis posé la question en théologien, je vous dirai chaque fois que je passe en théologie et puis chaque fois que je reviens à la philosophie, parce que on peut toujours être un pied d'un côté, un pied de l'autre. On est philosophe, on est croyant. Il ne faut jamais séparer. Mais il faut toujours distinguer. Et pas faire un amalgame. Je me suis demandé si, quand Saint Jean parle des antichrists, est-ce qu'il ne parle pas de ces idéologies athées ? Il n'a jamais dit que c'était une vraie personne. Et si je regarde l'Apocalypse, je vois que les antéchrists, c'est la bête de la terre et la bête de la mer. Et c'est surtout la bête de la mer. Les paroles de l'Apocalypse sont très fortes sur la bête de la mer. Elle a 7 bêtes sur lesquelles sont inscrits des noms de blasphèmes. Le nom de blasphème le plus fort, c'est dire Dieu n'existe pas. C'est le blasphème suprême, celui-là. Et il y a une tête qui est blessée à mort et qui se redonne la vie. Je me demande si ce n'est pas le symbolisme de la dialectique. Blessée à mort, c'est la négation de l'intelligence. La tête est niée. Elle est morte par le péché. Et elle revit par la foi. Et le but de la foi, c'est de faire ressusciter l'intelligence morte par le péché. Et de ressusciter l'intelligence d'une façon telle qu'elle est Dieu. Donc ce symbolisme de l'Apocalypse est extrêmement fort. Alors si ceci est vrai, ça, je ne vois pas qu'on puisse le nier. Si ceci est vrai, on voit que depuis 150 ans a surgi ces antichrists, parce que ce qui est très curieux dans ces idéologies athées, c'est qu'elles sont toutes des anti-béatitudes. Les béatitudes, c'est Jésus sauveur. Il nous sauve par les béatitudes. Ça, c'est sûr. C'est l'enseignement du Christ ultime, les béatitudes. Et Jésus nous sauve par les béatitudes. Et donc, l'antichrist, c'est l'anti-sauveur. C'est celui qui est anti-béatitude et qui nous montre un chemin d'exaltation de l'homme qui doit se sauver par lui-même. Vous savez bien, cette parole si importante du Saint-Père venant en France pour la première fois à Notre-Dame, réunissant tous les évêques à huis clos, Heureusement que la documentation catholique a dit ce que le Saint-Père avait dit aux évêques. C'était pas un secret. Et le Saint-Père, au terme de son discours aux évêques, dit « L'Église d'aujourd'hui est en face d'une tentation comme elle ne l'a encore jamais connue. » Une méta-tentation, c'est l'expression du pape, comme on dit une métaphysique. Une méta-tentation, c'est-à-dire une tentation radicale. Une ur-tentation. Une tentation fondamentale. Et cette tentation fondamentale, il s'est perdu que l'Église n'a encore jamais connue. Parce qu'on a la tentation, vous savez, aujourd'hui, de noyer le poisson. Hein. Tu mets toujours l'Église à lutter, tout le temps, tout le temps. Et ça va pas si mal, quoi. Attention, attention. Quand le Saint-Père dit que l'Église est en face d'une tentation, une méta-tentation, une tentation comme l'Église elle a encore jamais connue, ça prouve la fureur du démon. Ça prouve les attaques très directes du démon. Et cette méta-tentation, le Saint-Père l'explique, c'est qu'il n'y a plus de place pour le Sauveur dans la culture d'aujourd'hui. Donc, c'est les antichrists qui ont pris toute la culture. Puisque le Saint-Père souligne, il n'y a plus de place pour le Sauveur dans la culture d'aujourd'hui. Et l'homme, arrivé à l'âge adulte, prétend être le Sauveur de l'homme. C'est bien ces anti-béatitude qui se présente à l'homme comme donnant à l'homme le vrai bonheur, le bonheur total. C'est l'homme qui donne à l'homme sa béatitude. Et le fruit de ces anti-béatitudes, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, ce phénomène d'une culture qui se veut purement laïque. Une laïcisation. Laïque, vous voyez, le mot laïque est très multiple comme signification. Il y a un laïcoque qui est sanctifié par l'Église. Il y a un laïque distinct du prêtre, très bien. Le religieux est un laïque, totalement consacré à Dieu. Mais il y a un laïc qui s'oppose à toute attitude religieuse, considérant toute attitude religieuse comme une attitude rétro, témoin d'un âge révolu. Le progrès de la science prend tout. Le progrès de la technique prend tout. Et il faut donc que tout soit laïcisé. Ramener à l'homme dans sa dimension fondamentale d'homme et non pas de l'homme en tant qu'il est religieux, en tant qu'il reconnaît la dépendance à l'égard de Dieu, en tant qu'il est capable d'adorer. C'est pour ça qu'on dit que la bête de la mer a un chiffre d'homme, 6, 6, 6. C'est l'homme coupé de sa dimension religieuse. Et l'homme qui se replie sur lui-même. L'homme avec la dimension religieuse, il a 7 dimensions. Et l'homme coupé de sa dimension religieuse, c'est 6, 6, 6. L'homme qui se replie sur lui-même. Ça, c'est le fruit des idéologies athées, ce que nous voyons maintenant. Oui, c'est assez impressionnant, ça. De voir qu'on touche là quelque chose d'ultime. Et je crois que l'encyclique actuelle du pape C'est le signal d'alarme. Le pape dit attention, vous vous laissez prendre au jeu de cette dialectique du monde et derrière le monde de Satan. Dans le langage de Jean, n'aimez pas le monde parce qu'il est mené par le démon. Et c'est le développement des concupiscences. Et ce n'est plus l'appel vers Dieu, vers les béatitudes, vers le Sauveur. Vous voyez, on voit ça aujourd'hui. On le touche. Mais on ne veut pas le voir. On n'a pas envie de le voir. Alors on continue sa vie comme si rien n'était. Alors qu'on vit quelque chose d'ultime. Je ne sais pas si c'est la fin de toute civilisation ou si c'est la fin de la civilisation chrétienne. Mais je ne vois pas ce qu'il peut y avoir après la civilisation chrétienne qui se corrompt de l'intérieur. C'est pour ça que tout me porte, moi, en tant que philosophe, à dire attention, l'humanité croit qu'elle peut tout faire par elle-même. Vous savez, cette parole très curieuse qui est dans la Genèse et qui est très frappante au moment où les hommes construisent la tour de Babel. J'allais dire la tour Eiffel. On est... où les hommes construisent la tour de Babel. Dieu est exclu. Dieu est obligé de s'avancer. Allons. Allons voir ce qui se passe. Parce que tout se passe en dehors de lui. C'est le monde qui se passe en dehors de lui. Alors Dieu est obligé de regarder de l'extérieur. Et il y a une réflexion de Dieu extrêmement anthropomorphique, mais merveilleuse. Parce qu'elle est très anthropomorphique. Tu dis attention, attention. Oh. S'il fait la tour de Babel et qu'il arrive à cette unité avec sa technique, avec sa science, il pourra tout faire. Alors Dieu arrête. Et Dieu met la division des langues. Ce qui fait que l'homme ne comprend plus l'homme. Il y a cette espèce de juxtaposition les uns à côté des autres. L'homme n'a plus confiance en l'homme. Et ça, si je suis attentif, c'est le dernier mythe de l'orgueil collectif. Et donc c'est la fin. Je crois que ces idéologies athées construisent la tour de Babel. L'homme veut par là atteindre le ciel, son Éden, son bonheur. Et un jour, il s'apercevra que c'est impossible. Et la conséquence, c'est qu'on verra qu'on est en face d'un mensonge. Et l'homme sera furieux qu'on l'ait trompé. Et l'homme s'opposera à l'homme, et l'homme se divisera de l'homme. Et je crois que c'est à ce moment-là où le Christ reviendra dans la gloire. Si je suis attentif à l'Apocalypse, si je suis attentif à ce qui est dit dans l'Écriture, je vois que Dieu nous donne des signes aussi clairs que le bourgeon annonce le printemps. C'est dit dans l'Écriture. Or, ce signe est très fort de ces sept grandes formes d'idéologie athée qui toutes veulent former une anthropologie coupée de Dieu, ni en Dieu. C'est l'homme qui veut se construire lui-même et l'homme qui ne veut rencontrer que l'homme. Alors, face à ça, nous devons écouter ce que l'Église nous dit. C'est sûr. Et nous devons faire l'effort d'être capables d'écouter ce que l'Église dit. Ce qui n'est pas si commode. Et pour être capable d'écouter ce que l'Église dit, il faut qu'il y ait une conversion de notre intelligence pour rechercher la vérité. Ça me semble capital. Quoique des quantités de choses qui fait qu'on écoute plus que l'Église nous dit parce qu'on ne cherche pas la vérité. On doit être suffisamment intelligent pour voir que ce sont ces idéologies athées qui gouvernent la pensée moderne. Et la source de ces idéologies athées, c'est l'hégélianisme. Et l'hégélianisme provient de Luther. Je remonte. Quand on a chassé le démon d'une maison, il revient cette fois plus fort. Et on assiste à ça. Alors comment répondre? C'est de comprendre les deux grandes attaques du démon actuellement. Il y en a deux grandes. Il n'y en a pas 36. Il y a des quantités de choses secondaires. Mais il y a deux grandes attaques. La première, celle du temps de Luther, l'intelligence humaine est pourrie. Et donc elle n'est plus capable que de faire des mathématiques et des sciences. Mais est incapable de rechercher la vérité et de rechercher une sagesse. Elle est pourrie. Et seconde attaque, tout à fait récente, la procréation. L'homme, par le progrès de la science et de la technique, veut être le maître de la vie et de la mort. L'homme doit pouvoir décider quand il veut mourir, euthanasie. L'homme doit pouvoir décider par lui-même d'avoir des enfants. Ça, il l'a toujours eu. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau. C'est qu'on veut que ce soit par l'intervention de l'homme qui pourra modifier le petit fœtus. Plus il est faible, plus on peut le modifier pour qu'il soit l'enfant de l'homme, l'enfant de la science et de la technique, et que l'homme mette la main sur ce qu'on appelle aujourd'hui la fécondation artificielle. Au plan philosophique, moi ça va toujours semblait un problème extrêmement important, ça. Et je connaissais, grâce à Châteauneuf, un bouvier remarquable d'une ferme à 1000 vaches. Et ce bouvier était à moitié poète en même temps, très bon chrétien, merveilleux. C'est beau un bouvier qui soit poète. Il m'avait demandé de faire la chartre du lait. C'est intéressant de faire la chartre du lait. Il y a le pain, le vin et le lait. Hein? Et Dieu n'a pas choisi le lait, il a choisi le vin. Tous ceux qui sont pour le lutte anti-alcoolique sont furieux. Je voyais ça en Suisse. Je me souviens, le bon père vicaire avait fait un article pour montrer le vin dans l'écriture. Il a reçu des lettres d'injures. Il a dit, mais surtout ne parlez pas du vin dans l'écriture, quand même. C'est la table. bizarre de l'écriture d'avoir parlé du vin. Faut pas en parler. Oui, l'ivresse de Noé, quoi, quand même. C'est pas tout à fait polyphétique. On devrait parler du lait. C'est curieux, hein. C'est très très curieux, ces choses-là. Et c'est profond, ça va très loin. Et ce bon Bouvier me disait, oui, on est obligé, évidemment, pour nous, 1000 vaches. Mais on garde le taureau. Parce qu'on ne sait pas très bien ce que ça va donner. Alors il me disait, ou oh, qu'est-ce que vous en dites de ça? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une déperdition là-dedans? Chaque fois que l'homme met sa main sur quelque chose, ça devient la mesure de l'homme. Et la fécondité, c'est pas la mesure de l'homme. Non, non. C'est un grand secret de Dieu. Puis parler là-dessus, mais de façon étonnante, merveilleuse. J'aurais aimé qu'il fasse un cours de théologie, comme Bouvier, pour montrer qu'il y a des problèmes qui se posent. Tant que c'était les animaux, ça allait. Mais le jour où on touche à l'homme, alors je comprends que l'Église dit non là. C'est comme c'est mal reçu dans le milieu médical. Et on touche là, vous voyez, à l'autre alliance. Il y a les deux alliances sacrées. Les deux alliances. L'intelligence et la procréation. C'est très étonnant, on dirait ça. Les deux moments où Dieu intervient. Directement. L'intelligence, l'homme est capable par lui-même de remonter jusqu'à Dieu pour adorer. Pour que l'adoration soit un acte libre et une réponse à l'acte créateur de Dieu. C'est la grande réponse de l'homme à l'acte créateur de son âme. L'âme prenant conscience, l'homme par son âme spirituelle, prenant conscience de ce qu'est la création de son âme, répond à Dieu par l'adoration. Or, on est en train de mettre la main sur la procréation. C'est quand même très impressionnant cela, ces idéologies athées voulant libérer l'homme de tout acte d'adoration. Auguste Comte dit « Être serviteur de Dieu, c'est être serviteur des hommes. » Et la caricature de la charité fraternelle. Servir Dieu, c'est régner. Et servir Dieu, c'est l'adoration. Alors on supprime l'adoration par le service social. Il y a un service social qui est très bon et qui ne s'oppose pas à l'adoration. Mais il peut y avoir un service social qui s'oppose et qui fait que l'homme ne peut plus être que serviteur de l'homme. Alors, quelle est la réponse qu'on peut donner? Il faut quand même réfléchir. Il faut être de notre temps. Et l'être pleinement, le plus qu'on peut, en face de cette grande attaque du démon. Le démon ne se cache plus aujourd'hui. Il se manifeste en redingote. Il se manifeste avec l'habit des savants. Il se manifeste en grande tenue, exactement comme à la croix. Pour le démon, la trahison de Judas, la jalousie des grands prêtres, c'est sa grande victoire. Ça fait que Jésus est crucifié. Et à ce moment-là, le démon est persuadé qu'il a raison. Il y a deux grands moments hein, où le démon pense qu'il aura raison. Le terme de la vie du Christ et le terme du pèlerinage de l'Église. l'Église sur la terre. Et en réalité, il est vaincu par le mystère de la croix et par l'Église, c'est-à-dire par Marie dans l'Église, qui écrase la tête du démon. Et alors, est-ce qu'on est tout proche de ça ? Philosophiquement parlant, si on est très loyal à voir ce qui se passe, on peut dire que la philosophie aujourd'hui, à part quelques-uns, a perdu son désir d'être sagesse, c'est-à-dire d'être au service de l'homme. Parce que la dialectique n'est pas au service de l'homme. Elle veut asservir l'homme à son idéologie. Tandis que la philosophie est au service de l'homme. C'est pour ça qu'elle est sagesse. Or, la philosophie n'a plus aucun souci d'être sagesse. Elle est idéologie. Et c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Quand je vous disais au début, quand le Père Abbé avait voulu qu'on expose ce qu'on enseignait à Saint Jodard et à Rimond, et je devais le faire. Alors, j'ai commencé par dire, la philosophie n'est pas une idéologie. Et la grande différence, c'est que l'idéologie asservit l'homme et que le philosophe est au service de l'homme. Ça, tout le monde peut comprendre. Surtout ceux qui ont été asservis par le marxisme. Ils ont été tellement asservis par le marxisme qu'on a tué l'âme d'un pays. Tous ceux qui reviennent de ces pays-là, de la Lituanie à la Roumanie, disent la même chose. On a tué l'âme d'un pays. Une idéologie athée asservie. La philosophie réaliste est au service de l'homme pour l'éclairer, pour lui montrer quelle est sa finalité. Alors quand j'ai exposé ça, quelqu'un d'important a dit « Pierre, c'est très bien cette distinction que vous faites entre idéologie et philosophie, mais on est tous des idéologues. Même si on est philosophe, on est idéologue. » Je dis non, non. J'ai horreur de l'idéologie, de droite et de gauche. Horreur. Parce que c'est l'exaltation de l'homme et la suppression de Dieu. J'ai essayé de lui expliquer, mais c'était très net pour lui. Tout philosophe est un idéologue. Alors, j'ai répondu du tac au tac quand il est comme ça, vous savez, on répond un peu brutalement. Et quelquefois c'est l'Esprit Saint, parce que la parole est une épée à deux tranchants. Et, parce que je le connaissais. Je dis, c'est pas étonnant alors que c'est si difficile de vous comprendre. Parce que si vous êtes idéologue, on ne peut vous comprendre que si on est esclave de votre pensée. Tandis qu'au contraire, si on est philosophe, on conduit à la vérité et on libère de tout esclavage. C'est le rôle de la philosophie aujourd'hui, plus que jamais, c'est de libérer de tout esclavage, c'est-à-dire de ces sept formes d'idéologie qui sont les sept esclavages modernes. Alors je crois, voyez, il faut reprendre tout à l'origine. Comme quand on est devant de très grandes crises, tout reprendre à l'origine au niveau philosophique, qui conduit à la philosophie première, à la métaphysique, et au niveau éthique, C'est ce que fait le Saint-Père. Je ne crois pas qu'il va faire une encyclique sur la métaphysique. Mais ce serait la libération de l'esprit et la libération du cœur. L'éthique libère le cœur. Et la philosophie libère. Alors, je vais très rapidement montrer avec vous. Reprendre la philosophie, c'est repenser le problème fondamental de la philosophie. L'intelligence humaine est capable par elle-même de découvrir l'essence de Dieu.